samedi Sabatier sur M Radio avec Amel Bent à l'occasion de la sortie du nouveau titre Si on te demande.
Alors nous sommes ensemble, vous le savez, chaque samedi entre 12h et 13h. Je vous l'ai dit juste avant les informations, moi je suis très content parce que on ne se connaît pas, Amel Bent, et pourtant moi j'ai l'impression de bien vous connaître. Depuis que je vous ai vu à la télévision, vous me remettez également moi.
Quand même. Je suis. Si vous voulez, j'ai tout le monde qui est fou à la maison là.
Comment ça à la maison, c'est où votre maison? Enfin, je veux pas l'adresse, mais c'est à Paris. C'est.
Oui, j'habite à Paris pour la première fois depuis un peu moins d'un an. Et je pense que je suis une vraie banlieusarde dans l'âme. Je m'y plais pas vraiment. En fait, j'aime Paris.
Ouais.
Je me sens très parisienne, mais je crois que je préfère vivre quand même autour.
Alors, vous savez qu'on va passer une heure ensemble. Il y a un concept dans cette émission. Il y a un single, si on te demande. Il y a un concept, c'est-à-dire que là, elle va apparaître des mots. Puis avec ces mots, moi, mon job, c'est de faire des questions. Et vous, c'est d'y apporter des réponses. On y va. C'est vous qui commencez. Un jour d'été à Si on te demande. Oui, alors là, Si on te demande, c'est l'actu. Un jour d'été, c'est le premier disque. Est-ce que vous avez l'impression que tout s'est passé comme vous en aviez envie? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez...
Évidemment.
Parce que ça a été quand même très vite.
Oui.
Pas trop vite.
À la fois, on a l'impression que c'est un tourbillon. On a l'impression qu'on ne contrôle rien et que ça va très très vite. Mais en même temps, c'est pas si récent que ça. Ça fait quand même 14 ans. Et quand je regarde un petit peu derrière, je me dis que j'étais une petite gamine, quoi. C'est contradictoire. On a l'impression que c'était hier et en même temps que c'était il y a 1000 ans.
En 2004, vous êtes pas une adolescente, mais presque.
Une pré-adulte.
Une pré-adulte.
Une pré-adulte.
Est-ce qu'on peut se faire au succès, à la célébrité? Est-ce qu'il y a une façon de l'accueillir? Est-ce qu'il y a une façon d'adapter sa vie?
Moi, je crois vraiment profondément qu'un être humain n'est pas conditionné à vivre la notoriété. C'est pas quelque chose de naturel et ça laisse forcément des traces et ça crée des névroses et même des psychoses qu'il faut régler au quotidien et vite et pas laisser traîner. J'ai eu la chance moi d'être très entourée, d'avoir une famille très présente et puis surtout de pas avoir les gens très proches de ne pas les avoir vus trop tourner. C'est-à-dire que le problème c'est que nous on se met à tourner un peu beaucoup et si les gens autour de nous tournent avec nous, là c'est un peu foutu quoi. Donc
qu'est-ce qu'il y a de changé en vous entre un jour d'été à Si on te demande, hein, qu'est-ce que vous trouvez différente?
Oh ben moi, je pense avoir grandi, mûri, changé d'avis sur un milliard de sujets. Je pense voir la vie forcément différemment avec quelques années en plus et puis d'autres. J'ai d'autres enjeux, tout simplement. On n'a pas les mêmes enjeux à 18 ans qu'à 32 ans, c'est sûr.
Les enfants.
Les enfants, évidemment, mais pas que, parce que les enfants, la grande n'a que 2 ans, mais le changement s'était fait quand même bien avant. Moi, j'ai commencé en étant persuadée que ça n'allait pas durer, et que ça n'allait pas être mon métier, et que j'étais en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou du moins la vie...
Mais pourtant, vous avez été Amel Bent, candidat à ça. Vous avez été...
Ah non, mais je me suis donné les moyens. Dès l'âge de 12 ans, je voulais être chanteuse. Enfin, j'étais chanteuse et je voulais que tout le monde le sache. Mais c'était une envie puérile, quoi. Parce que au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais passer à côté de ma vie normale. Faut que je reste à l'école, faut avoir des diplômes, il faut que je puisse faire quelque chose de concret dans la vie. Pour moi, c'était pas concret de toute façon. Et le souci, c'est que pendant des années, les 5, 6, 7 premières années, peut-être, je pensais que je vivais une vie qui allait s'arrêter. Et
maintenant,
qu'il fallait que je revienne à la vie normale.
Maintenant, vous vous y êtes habitué?
Mais je me suis tellement habitué à tel point que je me rappelle même plus ce que c'est que de pas être Amel Bent. J'ai oublié. Pendant un moment, j'étais tout le temps dans le souvenir de ma vie d'avant. Et aujourd'hui, c'est tellement loin. Là, ça fait partie des choses qui sont trop loin. Je sais plus ce que c'est. J'ai oublié comment on vit normalement.
Amel, c'est votre vrai prénom?
Oui.
Bent, c'est votre vrai nom?
C'est la moitié de mon vrai nom. Je m'appelle Amel Bent Bachir.
On va écouter Si on te demande. Faites l'animatrice radio, présentez-nous ce single.
Et tout de suite, vous écoutez Si on te demande d'Amel Bent sur M Radio.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur M Radio.
Avec Amel Bent, qui maintenant passe de chanteuse à invitée. Alors, un autre mot.
Ma philosophie,
c'est alors, on sait bien, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, j'adore ce titre. Mais c'est quoi votre philosophie dans la vie? Pas dans la chanson, mais dans la vie.
Bah, Moi, je suis la fille d'une maman très rebelle qui n'a cessé depuis des années
d'essayer de
marocaine, algérienne.
Voilà.
De trouver son bonheur, tout simplement. Ça peut paraître bateau, mais c'est un vrai sport de haut niveau d'essayer de comprendre déjà ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend malheureux, de savoir ce qu'on veut pas, de savoir ce qu'on veut, c'est pour moi la quête d'une vie. Et ma philosophie globalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est essayer de marcher avec les personnes qui me font du bien, de manger des choses qui me font du bien, d'aller dans les endroits où je me sens bien, et mis bout à bout, ça fait une vie plutôt sympathique. Enfin, c'est essayer d'être bien, quoi.
Et ça, vous l'avez depuis toujours, grâce à votre maman, ou alors, au fur et à mesure, vous dites, non, l'essentiel, c'est ça.
C'est venu quand même après. Il y a forcément une période dans la vie où on cherche à être pas bien. On cultive la mélancolie, on cultive la détresse. Ouais, moi, j'ai cultivé beaucoup.
Et ça aide à la création, ça?
Pas forcément, en plus. J'ai pas mieux écrit quand je cultivais le malheur, mais je me suis rendu compte surtout que les malheurs, ils arrivent.
Sans qu'on les demande.
Voilà,
et puis c'est par période.
Et voilà.
Par session.
Et puis il y a des séries, donc mieux vaut tenter d'attirer le bien et d'en faire plutôt que de cultiver le.
Là, vous êtes bien dans votre peau, dans votre vie.
Va. Oui,
ça a l'air, hein.
Je me sens bien, ouais. Là, c'est une jolie période de la vie.
Allez, un autre mot. Psychologue. Ah, vous vouliez être psychologue. Alors, c'est
presque. C'est... Pas très exactement.
Mais il y a des métiers qui s'appellent presque psychologue.
Ouais, voilà, bah oui, bah, les psychologues sont presque psychologues parfois. Non, je voulais être profiler. Je voulais étudier le comportement criminel, enfin des psychopathes.
Ah, d'accord.
C'est ma deuxième passion.
Parce que vous regardiez les séries à la télévision et que Profiler, c'était.
C'est
quelque...
vrai que ça a commencé avec une série. La série Profiler, j'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans. Et je pensais que c'était simplement une fiction. Sauf que je me suis renseignée à la bibliothèque, j'ai lu quelques bouquins et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Et de là, j'ai commencé à me passionner. D'ailleurs, je lis des bouquins que personne n'ose jeter les yeux sur une ligne ou un paragraphe de ce que je lis. C'est tellement atroce.
Mais alors, qu'est-ce qui vous intéresse, Profiler? Ça veut dire que dans la vie, immédiatement, quand vous voyez quelqu'un, vous arrivez à définir ce qu'il est?
J'aimerais bien, voilà. Non, malheureusement, j'ai pas ce talent-là. Peut-être que si j'avais continué les études, et, de cette manière, c'est une science, hein, comme une autre. Hein. Tout s'étudie, le comportement, les gestes qui trahissent, les mots qui trahissent, tout ça. Enfin, il y a des gens
dont
c'est le métier.
Mais est-ce que ça vous aide dans votre vie affective, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle? Est-ce que ce côté, je sens, j'ai cette intuition qui fait que je sais qui j'ai en face de moi, est-ce que ça vous aide?
J'ai un instinct. Je me trompe rarement sur les gens, mais je peux aussi me tromper. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une science. Il y a l'instinct pour moi, et puis après, il y a la science du comportement. J'aurais bien aimé apprendre la science du comportement.
Allez, un autre mot. Johnny. Mm. Ben, vous avez chanté avec Johnny.
Oui, plusieurs fois.
Ouais.
Oui.
Donnez-nous un souvenir de Johnny, votre souvenir.
Moi, vraiment, je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est ma première rencontre avec Johnny. Je me souviens, c'était après le tsunami, le drame du tsunami. On enregistrait un disque multi-artiste pour l'Asie. Et moi, j'arrivais, donc on m'avait donné une heure d'enregistrement. Donc je me pointe au studio. Et en fait, c'est Johnny Hallyday qui était en train de finir son enregistrement. Faut avouer que j'écoutais pas beaucoup de Johnny Hallyday plus jeune.
Et, c'était pas votre idole.
C'était pas mon idole. Mon idole, ça a toujours été Charles Aznavour, mais bon, j'avais quand même une admiration pour Johnny Hallyday. Je savais qui c'était. Comme tout le monde, je connais la plupart de ses chansons. Mais c'est vraiment ce jour-là que j'ai pris vraiment une espèce de claque. Comment dire, un coup d'électricité, un coup de jus, quoi. Parce que je l'ai entendu chanter en vrai dans ce studio où moi j'avais déjà en plus enregistré auparavant. Et là, on se rend compte de la taille du talent et la voix. Et
la force.
La force du mec, quoi. L'énergie. Puis même les petits mots qu'il disait à l'ingénieur entre les prises. Enfin, moi j'étais là en train de regarder. Je dis, mais je veux devenir ce mec-là, quoi. C'est un charisme.
Et après, quand vous avez chanté avec lui, alors?
Ah, bah là, j'étais. C'est bizarre, la première fois, donc c'était Allumer le feu. J'ai chanté deux fois avec lui à Bercy. Comme j'étais plus jeune, j'étais plus rock'n'roll finalement, et on voit pas mon track. Alors que 10 ans après, il m'invite à chanter Je te promets encore à Bercy, et j'étais pétrifiée. Comme quoi, il y a une insouciance. On est jeune et insouciant, on le dit. Hein.
Vous parliez d'Aznavour, vous avez rencontré Johnny, vous avez rencontré Aznavour?
Et oui.
Hein, plusieurs fois?
Ah oui.
C'est le patron, c'est quoi?
Pour moi, c'est le mien.
C'est le vôtre?
C'est le mien.
connaissez toutes les chansons d'Aznavour par cœur, presque.
Je pense que j'ai encore. Il y a son répertoire est immense, donc je découvre encore des choses. Mais c'est ce que je trouve merveilleux avec lui, c'est que il a jamais fini de me surprendre. Je l'écoute depuis que j'ai 4 ans. J'ai découvert la mélancolie avec lui. J'ai pleuré pour la première fois en écoutant une chanson sur une chanson de Charles Aznavour. Je crois que c'était Que c'est triste Venise. Ça m'a bouleversé. Je comprenais rien.
Au soir des amours morts.
Ah oui. Je comprenais rien. J'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il disait. Je pense que je parlais même pas bien déjà. Enfin, j'étais bébé et je pleurais déjà parce que dans sa voix il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup ému. C'est quelqu'un qui me bouleverse artistiquement. Voilà, je l'aime très fort.
Il va avoir, je crois, 93 ans au mois de mai. Nous y sommes. Il était à Bercy le 13 décembre dernier et il fait des projets encore. Il chante.
Il est incroyable. Il est incroyable. Moi, le soir où il chantait à Bercy, je devais y aller, mais finalement, je chantais Que je t'aime en hommage à Johnny Hallyday ce soir-là. Donc bon.
Vous avez choisi dans votre programme Je l'aime à mourir, un certain Francis Cabrel.
Oui.
Justifiez votre choix.
Oh, c'est ma chanson d'amour de mon amoureux avec mon amoureux.
C'est vrai?
Oui.
Votre amoureux depuis combien de temps?
5 ans.
Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez rencontré?
C'était mon moniteur d'auto-école.
Et immédiatement, vous vous êtes dit, c'est lui?
Je crois qu'il a pas...
C'est lui qui a dragué c'est vous?
On s'est pas dragué.
Non.
On est tombé amoureux dans la voiture, ouais.
C'est vrai?
Ouais, en discutant, en parlant de la vie. Ouais. On a vite passé la 5e d'ailleurs, mais c'est bon, on est tombé amoureux dans la voiture. Et on a tout de suite habité ensemble, en fait. C'est bizarre, hein. De la voiture, on n'était jamais allé dîner, on n'avait jamais été... boire un café,
non.
Oui. Au moment où il fallait passer mon examen de conduite, on s'est dit qu'on allait plus se revoir puisque j'allais passer mon examen. Sauf que de là, on s'est dit c'est pas possible, il faut absolument qu'on soit ensemble. Et de la voiture, on a vécu ensemble et on est mariés, on a 2 enfants. Donc il y a des histoires d'amour encore.
Formidable. Enfin,
je veux dire, ça existe.
C'est légendaire, c'est formidable. Ouais,
et je l'aime à mourir.
Et je l'aime à mourir. Et c'est Francis Cabrel qui, là, pour le compte, va la chanter.
Samedi Sabatier sur M Radio avec Amel Bent à l'occasion de la sortie du nouveau titre Si on te demande.
Sur M Radio, il y a Amel Bent, c'est son émission. Alors ce samedi, on y va. Un autre mot, Amel, ma télévision. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision?
Bon, j'ai pas la télévision.
Oh, pas moi, allez.
J'ai un rétroprojecteur que je n'allume que pour regarder des films.
Vous n'avez vraiment pas
non,
la télévision?
Non, j'ai pas de télévision.
Mais comment ça se fait?
J'ai un rétroprojecteur et je branche...
Donc vous ne regardez pas la télé puisque vous ne l'avez pas?
Non.
Mais pas sur le téléphone ou...
Je regarde en replay des choses sur l'ordinateur avec certains produits. On peut balancer sur un écran, enfin sur le rétro.
Donc l'idée c'est de regarder des films avant toute chose?
Oui.
Et des émissions de divertissement, tout ça, non?
Ça m'arrive. Ça peut m'arriver, mais c'est vrai que je suis pas à la maison, on n'a pas la télé qui tourne en boucle.
C'est un choix?
Oui.
Pourquoi?
C'est un choix que j'ai fait quand j'ai décidé de stopper, de faire ma pause vie. J'avais la télé, ça me ramenait
tout le temps. Là, vous dites beaucoup de choses. C'est quoi ma pause vie?
Quand j'ai décidé de vivre un peu la vie de pas chanteuse.
C'est la première fois que j'entends ma pause vie. J'aime bien d'ailleurs, mais c'est quoi une pause vie?
C'est que c'est un métier quand même qui nous dévore, quoi. Et on vit pas. Je le dis, mais c'est je le dis pas en plainte. Hein. J'aime mon métier profondément, mais il faut quand même dire les choses. C'est un métier qui dévore à la fois dans le positif et dans le négatif. Et donc j'avais envie de faire des enfants, et je me suis dit d'une manière générale, il faut que je fasse une pause de vie, quoi.
Ma vie à moi, pas la vie publique, ma vie à moi.
En fait, la vie.
La vraie vie.
Ouais. C'est-à-dire que ma vie à moi, pour moi, c'est pas une vie normale. Donc
mais quand
je
vous
voulais
chantez,
vivre la vie.
Quand vous êtes sur scène, quand vous êtes là à la radio, c'est pas une vraie vie, ça. Non, mais je vous pose la question, j'ai pas la réponse. Moi, c'est ma vraie vie, hein, parce que moi, je ne chante pas.
C'est tout récemment que je me suis faite à l'idée que ça allait être ma vie. Que maintenant, j'espère pour
vous pourriez, vous auriez pu avoir une autre vie?
Je sais pas.
Alors, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous pourriez arrêter de chanter, arrêter de faire tout ça?
J'ai voulu, mais j'ai pas réussi. Donc, déjà, je peux répondre à votre question avec certitude. Non, je ne peux pas.
D'accord.
Parce que j'y étais presque. Hein. J'étais partie pour pas revenir.
Donc, le côté applause, public, selfie, autographe, radio, télévision, presse, ça ne vous manquerait pas?
Ça aurait dans pu toute ne pas la liste, manquer? Dans toute la liste, la seule chose qui m'a manqué, c'est le public. Ça, oui, ça, je peux pas m'en passer. Ça m'a manqué. Me dire que j'allais plus pouvoir partager avec eux, je me suis pas faite à cette idée-là. Chanter. Enfin, chanter pour quelqu'un. C'est ça aussi, c'est
vous chantez
c'est
pour votre amoureux?
Pas du tout. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'un chanteur dans la vraie vie,
il chante pas.
Non, c'est pas qu'il chante pas, c'est que les gens qui, les proches, ils s'en foutent quoi. Ça les saoule plutôt qu'autre chose. Moi, quand je me fais mes vocalises ou que je chante des chansons, au bout d'un moment, on me dit bon, c'est bon, on a compris que tu savais chanter un peu. C'est stop. On aimerait bien passer à table ou.
Moi, chez moi, par exemple, je me trimballe avec un micro accroché.
Non, c'est pas possible.
Une c'est... caméra qui me suit.
Non, c'est pas possible.
Allez, un autre mot. Alors, Sophia et Anna.
Ouais, Sophia avec un F.
Sophia avec un F. Ce sont vos enfants, les deux filles ?
Mes deux filles.
Voilà, bon, je veux pas rentrer dans l'intimité.
Oh, bon, il y a rien à dire, de manière, c'est que je veux dire, je vis pas quelque chose de plus exceptionnel que n'importe quelle mère sur cette planète.
Pourquoi avoir choisi ces prénoms ? Question un peu banale.
Bah, je trouve que c'est des prénoms, ce sont des prénoms qui sont à la fois... qui ont une histoire, à la fois pour toutes les religions, qui ont une histoire aussi noble, parce que ce sont des prénoms de princesse ou de reine. Mmh. Et en même temps, ce sont des prénoms internationaux. On a des Sophia au Mexique, des Anna en Russie.
En Angleterre.
On en a en Angleterre, on en a en Algérie, on en a partout. Et j'ai tellement envie que mes filles soient des citoyennes du monde... Je me suis dit, voilà, je veux qu'elles aient des prénoms à la fois qui portent aussi l'histoire de leurs ancêtres, mais aussi l'avenir du monde. Quelque chose dans la mixité et dans le... Voilà, j'aime ça.
Redevenez animatrice radio pour lancer Ma Philosophie.
Et tout de suite, on écoute Ma Philosophie, l'hymne d'Amel Bent sur M Radio.
C'est pas mal.
Samedi Sabatier, l'interview, des mots pour le dire sur M Radio.
Un autre mot avec Amel Bent, c'est son émission. Je suis une enfoirée.
Une pure et dure.
Depuis combien de temps vous êtes une enfoirée ?
13 ans.
Ça vous a fait plaisir quand on vous a appelé ? On est coopté dans ces cas-là ? On fait partie de la famille ?
C'est tellement vieux, je ne sais pas si ça m'a fait plaisir, mais c'est sûr que j'ai eu la pression, pas l'impression, mais la pression de faire partie de cette... De ce clan qui apporte tellement et je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur pour l'association, pour les Restos du Cœur. Il faut que je sois une enfoirée qui déchire, quoi. J'ai eu la pression et j'ai été accueillie fabuleusement par les enfoirés qui étaient à cette époque-là.
Et vous en faites toujours partie, là.
En place, et j'en fais toujours partie. Sauf que maintenant, tout le monde le dit, c'est comme ça, mais des fois, il y a la productrice Anne qui vient voir et qui me dit...
Anne Marcassus.
Oui, Anne Marcassus ou Yves Maillet qui nous disent « Bon, tu peux aller parler à un tel ?» Parce que bon, maintenant, toi, tu fais un peu partie des vieux enfoirés. Donc, en fait, j'avais la pression d'être une... Parce que j'étais une jeune enfoirée il y a quelques années et je commence à faire partie des enfoirés un peu yeuves, quoi. Ils sont là depuis longtemps, donc c'est rigolo d'accueillir de nouveaux enfoirés aussi, de faire comme on m'a fait... Je suis pas encore au stade de la passation. Hein. J'ai encore des années d'enfoirés devant moi. Je vais me battre à leur côté. Et ça, je l'ai promis. Je me le suis promis et je l'ai promis. Mais c'est rigolo d'évoluer même dans ce genre d'institution. On évolue aussi.
J'espère qu'un jour il y en aura pas quand même. Il y en aura
je le souhaite de tout cœur. J'espère qu'un jour on fera les enfoirés juste pour le plaisir.
Voilà. Un autre mot dans l'émission d'Amel Bent. La Courneuve. C'est là où vous avez grandi.
Oui.
Vous disiez tout au début de l'émission. Pour ceux qui n'étaient pas là et celles qui n'étaient pas là, oui, j'habite Paris, mais je suis pas à ma place.
Je suis à ma place dans Paris pour me balader, pour faire du shopping, pour aller bosser, etc. Après, quand on a grandi en banlieue, quand on a vécu en banlieue, d'ailleurs pas que grandi, on s'habitue à un certain calme, à croiser les mêmes visages tous les jours. Voilà, il y a quand même dans les banlieues un esprit de village et les gens de province et les gens des villages comprendront ce que je veux dire.
Vous êtes la seule qui dit, et je l'entends bien, hein, la Courneuve est un village.
Ah oui, c'est un village. Moi, je veux dire, aujourd'hui, mes filles, par exemple, je pourrais pas les laisser jouer en bas de la maison sans surveillance. Contrairement à mes parents qui me laissaient moi jouer jusqu'à pas d'heure dans mon quartier.
Ce que l'on entend sur les banlieues et notamment sur la Courneuve, c'est pipeau.
Je dirais pas que c'est pipeau, je dirais juste que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Évidemment, et d'ailleurs même dans Paris, hein, tout n'est pas tout beau non plus. Il y a les avantages de vivre comme dans un village, et puis il y a les inconvénients de ghettoiser certains endroits, sans parfois développer. Tout ce dont les gens dont les gens ont besoin pour évoluer et socialement et intellectuellement, et enfin voilà, on connaît les problèmes de certaines banlieues. J'y ai vécu, je le sais. Il y a aussi une misère sociale qu'il faut pas négliger, qui fait que bah voilà, on peut aussi mal tourner, voilà, être attiré par
On dit à Amel Bent qu'on est marqué par sa tendre enfance et que en réalité les choses sont un peu tracées à l'âge de 8, 10, 15 ans. Qu'est-ce que vous avez de cette enfance qui vous reste dans votre cœur, dans votre tête aujourd'hui ?
Moi, de cette enfance, j'ai grandi effectivement dans une forme de pauvreté, hein, je peux le dire. Mais j'ai grandi avec beaucoup d'amour. J'ai appris le partage, j'ai appris la générosité, j'ai appris l'entraide, j'ai appris la mixité, j'ai appris.
Vous avez des frères, des sœurs ?
Oui. Qui sont issus d'un deuxième mariage. J'ai eu un beau-père à l'âge de 4 ans qui est béninois. Donc j'ai des petits frères et sœurs métis. Même ça fait partie de l'école de la vie.
C'est plutôt des bons souvenirs.
On m'a dit des choses, j'ai entendu des choses atroces. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui se bat pour l'amour, pour le mélange, pour la mixité, parce que je sais à quel point c'est beau, mais je sais aussi à quel point c'est dur. Donc, dans la vie, il y a toujours les bons et les mauvais côtés, mais il faut savoir entretenir les bons et combattre les mauvais. À mon petit niveau, à mon échelle, j'essaye de le dire dans mes chansons, j'essaye de le vivre au quotidien. Voilà. Mais j'ai eu une enfance quand même, entre grand bonheur, beaucoup d'amour et aussi, forcément, des choses qui marquent, des traumatismes. Voilà, c'est la vie.
Vous semblez en tout cas être très équilibré aujourd'hui, très stabilisé.
Parce que j'ai fait la paix avec moi-même, j'ai fait la paix avec plein de choses. J'ai fait la paix avec les gens qui m'ont fait du mal, j'ai fait la paix avec plein de choses. Et puis surtout, aujourd'hui, je parlais d'enjeux tout au début. Quand on a des enfants, mine de rien, même si encore une fois c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai, je peux pas dire les choses autrement. Quand on a des enfants, déjà on devient moins égocentrique. Tout ne tourne plus autour de soi. On se dit, j'ai une mission maintenant, et la mission, c'est quoi ? Ben, c'est d'éviter à mes enfants de vivre mes malheurs et de leur transmettre que du positif. Ils vivront leur tragédie, hein. C'est la vie, c'est comme ça, tout n'est pas rose. Mais au moins, les armer au maximum de bonheur et de positif et d'ouverture d'esprit et de voyage pour que mes filles n'aient peur de rien et qu'elles aillent vers tout le monde et qu'elles ne soient jamais, contre le pauvre ou contre le coloré ou contre le blanc, ou voilà, qu'elles aient une ouverture d'esprit incroyable qui leur permettront d'être heureuses partout dans ce monde avec leur
bien.
Prénom.
Vous avez un tatouage là à l'intérieur de votre... Non mais moi je vois celui-ci.
Bah, non
mais les autres je veux pas les voir. Ça fait pas
non,
de
mais
votre vie.
Non, j'en ai partout, mais il faut que je les fasse retirer, c'est n'importe quoi.
Là celui-ci il représente quoi ?
Bah en fait non, pour le coup
je l'avais pas vu celui-ci.
Ça c'est ma sœur et mon frère. Sauf que ma sœur, j'avais mis des petites ailes d'ange parce que j'ai une petite sœur qui est d'ailleurs elle est à Séoul là, elle fait un semestre universitaire à Séoul.
D'accord.
Elle adore, elle est contente. À peut-être pouvoir se balader d'ailleurs entre les deux Corées finalement.
Oui, peut-être pas tout de suite,
mais c'est ce que je lui ai dit. Non, elle va visiter la muraille de Chine parce qu'elle, du coup, elle a quelques heures d'avion de tout. Enfin, bref, donc ma sœur a des petites ailes d'ange parce qu'elle c'est une jeune femme exceptionnelle déjà et exceptionnellement gentille. Et c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir des gens qui sont bons. Elle respire la bonté et ça, tous les gens qui la croisent le disent, c'est un vrai petit ange. Et mon frère, bon, c'est un peu méchant, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai recouvert, c'est que j'avais mis son initiale mais avec des petites ailes de démon parce qu'il faisait que des conneries. Et je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de lui lancer un sort ? Est-ce qu'il va pas mal finir ?
Vous allez faire enlever tout ça ?
Bah déjà j'ai rajouté un petit nœud d'amour sur mon frère parce que pour essayer de conjurer ce sort.
Ce que j'ai fait avant, je le pense pas vraiment.
Voilà, t'es pas un petit démon, t'es quelqu'un de bien toi aussi. Et tu vas t'en sortir.
Et les autres, vous allez les faire enlever comme Matt Pokora ?
Non, pas tout, mais... Non, c'est pas que j'ai envie de les faire enlever, mais c'est que, voilà, bon, je sais pas. J'ai les prénoms de mes filles, j'ai le prénom de ma maman, j'ai une phrase de Reggiani que j'adore.
C'est laquelle la phrase ?
Il dit, je veux parler, chanter jusqu'à la fin de ma voix. Alors, j'ai mis jusqu'à la fin de ma voix. Je sais pas quand est-ce que ce sera la fin de ma voix, mais en tout cas, c'est sûr que je vais chanter jusqu'au bout. Cette phrase m'a bouleversée. Alors, je voulais
la noter. Renaud, Mistral gagnant, on vous retrouve tout de suite à Melbent. En tout cas, vous dites des choses pleines de, j'allais dire, de sagesse et en tout cas de bienveillance. Et la bienveillance, c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, je crois. Allez, Renaud, et on retrouve à Melbent.
Samedi Sabatier sur M Radio avec Amel Bent à l'occasion de la sortie du nouveau titre Si on te demande.
Et surtout Amel Bent avec mon slide. La réussite pour moi c'est.
Oh là là, la réussite pour moi bah c'est pas tout de suite. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi à la fin de sa vie quoi. C'est pas maintenant que je vais dire si j'ai réussi. Je sais pas encore du tout où est-ce que va m'emmener tout ça.
Ouais.
Et ma vie professionnelle et ma vie en général, je veux dire, j'ai aucune certitude sur rien. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis la fille de ma mère et la mère de mes filles. Voilà. Même mon mari que j'aime, j'ai pas de certitude sur rien. Je veux dire, tout peut basculer du jour au lendemain. Un jour on s'aime, un jour on s'aime plus. Un jour, la certitude, c'est le sang, quoi.
Non, mais je vous laisse parler. Donc
même mon métier, là, aujourd'hui, je suis chanteuse, je peux être adulée. Demain, on pourra me jeter des tomates sur la tête. Je veux dire, c'est, j'ai aucune certitude.
Vous croyez
je
peux en pas quelque dire, chose ?
Je crois en Dieu. J'ai la foi.
Donc vous avez la certitude de
Dieu ? De son existence, ah oui.
Ah oui.
Je crois en Dieu.
Ah, alors, est-ce que la certitude doit se prouver ?
Ah, pas du tout. On n'a pas besoin quand on est certain.
Donc, d'accord. Nous sommes libères. Allez, un autre mot.
Profitez-en, c'est gratuit aujourd'hui.
Un autre mot. Alors, tiens, papa et maman. Alors, algérien, marocain.
Papa algérien 100% et maman maroco-algérienne.
On en a parlé tout à l'heure. Vous ressemblez plus à qui, là ?
Bah, j'aime dire maman parce qu'elle est très belle. Papa, bon, voilà, il est tête de papa, quoi, mais il n'est pas non plus.
Attendez, vous dites des choses, moi, ça. Une tête de papa.
Bah, les papas, on s'en fout qu'ils soient beaux. Les mamans, c'est. Ouais, moi, je trouve qu'un mec beau, c'est pas. Moi, j'aime bien les mecs avec une gueule. Mon père, il a une gueule, quoi.
Ah, d'accord, ok.
Mais ma mère, elle est belle.
Et qu'est-ce qu'elle a, sa gueule
? Quelque chose qui ne va pas. Ouais, il a un grand front. Bon, voilà, j'ai hérité de son grand front, mais bon, j'ai pas son nez. Je suis contente, j'ai le nez de maman. Mais non, maman, elle est très belle. Mais c'est vrai qu'on dit que j'ai les traits de mon père dans le visage de ma mère. Voilà. Mais
Quand vous êtes tombé amoureux de votre amoureux,
oui.
Vous vous êtes pas donc tombé amoureux de son physique.
Bon, il est quand même pas mal. Hein.
Bon, d'accord.
Non, il est pas mal.
Allez, on passe à un autre mot. On passe à un autre mot.
Mes filles diront pas la même chose de leur père que moi du mien. Il est vraiment beau gosse, mon mec.
Alors, un autre mot. J'aimerais vraiment. Trois petits points. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment?
Bah,
qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ?
Bah, que vienne enfin cet été, ce soleil. J'ai envie de balader mes filles. Non, vous voulez dire vraiment profondément, parce que bon,
comme vous voulez. Comme
moi, ceci
vous voulez.
Dit, moi, le soleil, ça me rend heureuse.
Ouais.
Je suis vraiment. Pourtant, je suis née à Paris, mais je comprends. Je sens mon sang, quoi. On sent que derrière moi, ça vient du désert, quoi. Parce que je suis malheureuse, moi, quand il fait gris. Franchement, ça me met
la Normandie, la Bretagne. Non.
Mais pourtant, j'ai la chance d'avoir voyagé dans toute la France pendant, ça fait 14 ans que je traverse la France en long, en large et en travers. Il y a quand même des paysages fabuleux. Moi, de moins en moins, je prends l'avion pour partir.
Oui.
J'ai tendance à vouloir visiter de plus en plus la France, quoi. Parce qu'il y a des endroits merveilleux.
Ça vous arrive très jeune, parce que vous êtes quand même très jeune, hein. Généralement, on dit ça quand on a un certain âge, on dit, bon, ça va, on va pas se faire 10 heures d'avion, alors qu'on a à côté de soi, par exemple, la Corse ou la Bretagne, etc.
Mon mari est corse, donc déjà, on y est allé quelques fois, c'est franchement...
C'est beau, hein.
C'est extraordinaire. Mais même, je commence à... Bah, j'ai que 32 ans, c'est vrai que je vieillis trop vite, je crois. Non, mais je commence à kiffer la campagne. J'ai des amis qui ont loué une petite maison de campagne il n'y a pas longtemps. On est allé avec ma fille, mais qu'est-ce que j'ai pris du plaisir. On s'est baladé dans les champs. On a donné à manger aux ânes. Elle a coursé des poules. Enfin, elle a même cassé un œuf. Elle a volé un œuf à la poule et elle l'a cassé. Bon.
Et vous tricotez combien de fois par jour?
Non, je tricote pas. Mais par contre, j'ai pris le train avec une bonne sœur, je vous jure, en rentrant du tournage de mon clip. Donc, on a fait Marseille-Paris et j'étais avec des bonnes sœurs qui venaient du Burkina Faso.
Ouais.
Et qui venait pour qui venait dans une église parisienne. Et elle tricotait, mais j'ai passé 3h10 à la regarder tricoter son truc. Je dis, mais c'est quand même merveilleux, cette histoire de tricot, là. Ouais. Et puis elle avait une manière de sortir le fil. Alors moi, j'aurais fait 1600 nœuds. depuis longtemps.
Ça viendra, ça viendra.
Non, mais je trouve que c'est beau quand même de produire quelque chose. Moi, j'ai vu ma grand-mère cuisiner, coudre. Ma mère, elle est aussi, elle fait tout. Chez nous, c'est même pas les hommes qui bricolent, c'est les femmes. Donc moi, mon mari, sait rien faire, quoi.
Et vous, vous bricolez ?
Ah, moi, je fais tout, moi. On pourrait m'embaucher chez Ikea, franchement, je monte tout, mais à la vitesse de la lumière, je fais de la plomberie, je fais de l'électricité, je fais tout. Je fais tout.
Et vous faites quoi ce week-end, là, cet après-midi ?
Vous avez un robinet qui fuit ?
C'était Amel Bent, on était sur M Radio, continuez à écouter cette radio. On se retrouve samedi prochain avec, évidemment, un ou une autre invitée, ce sera la surprise. Il est 13h.